Ils nous ont promis le plus grand show de l'histoire, les amis, et ils l'ont fait. Et ça ne fait que débuter. C'est absolument formidable. On ne s'y attendait pas, on ne l'avait pas vu venir, on était peut-être mauvaise langue, moi le premier, je l'admets volontiers, et je m'en excuse tout autant volontiers, mais la Formule 1 est à Las Vegas, et malgré tous leurs efforts et toute ma résistance, et bien finalement, ça y est, je suis le train de la hype Las Vegas, je suis à fond dedans, c'est absolument incroyable, je regrette de ne pas m'être levé ce matin pour regarder les essais libres. Trop préoccupé par ma futile vie de travailleur à me dire il faut que je dorme cette nuit pour aller au travail. Mais non. J'aurais dû venir, j'aurais dû suivre ces séances d'essais libres et j'ai pu suivre un petit peu à distance tout ce qui s'est passé et c'est absolument exceptionnel. Merci la F1, merci la FIA, merci Las Vegas, merci la vie, merci la vie. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'humour et je suis là pour partager cet instant avec vous parce que je me suis dit faut quand même le vivre, passer un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Bonjour à tout le monde, bonsoir ou bonne nuit à ceux qui sont en direct sur place à Vegas. Je ne saurais par où commencer, merci à ceux qui ont eu la ref, hein, je ne suis qu'humour. Mais je ne suis pas. Je n'ai rien dit. Franchement, je vous ai tous vu, là, les collègues du YouTube, à faire vos vidéos médisantes. Oh là là, Vegas, ça va être une catastrophe. Pourquoi personne veut de Vegas? Je n'ai rien dit. À part en live, je n'ai rien dit. Je me suis retenu. Je me suis dit, on ne sait jamais. Là, c'est bon. Et je suis le train de la hype. C'est formidable. Alors, comment dire? Par quoi qu'on peut commencer? Bah, commençons par le début, hein, parce que on a eu une première séance d'essai libre absolument formidable qui a duré 8 minutes. Voilà, puisqu'il a fallu mettre un drapeau rouge et interrompre la session, puisque Carlos Sainz, ville Carlos Sainz, permettez-moi de le dire, a roulé sur. Il n'aurait jamais dû être là. Sainz n'aurait jamais dû être là déjà. Il aurait dû voir que sur la route, puisque ce n'est pas une piste, c'est une route, nous sommes en ville, il y avait cette plaque, alors par habitude on dit plaque d'égout, hein, je pense, mais c'est une plaque qui est faite pour accéder au soubassement de la ville, qui est très commun, hein, dans tous les grands prix, pour l'évacuation de l'eau, tout ça. Et il a roulé dessus, donc déjà tu te dis Carlos Sainz, mais ça ne va pas bien. En plus, je crois que juste avant, je ne sais plus si c'était Joe ou Albon, qui avait un petit peu causé la disruption de la force antigravitationnelle, si tu vois ce que je veux dire, qui a fait bouger le truc, et ensuite Sainz, en roulant dessus de manière totalement inconsciente, provoqué un effet de gravité purement physique, où la plaque s'est dit « non, là, c'est trop pour moi, faut que je décolle », et ça a éclaté la bagnole de Sainz. Tout le fond plat, bien évidemment. On parle même, et j'ai pas encore vu d'image, mais parce que je pense que c'est pas encore montré, la cellule de survie aurait été impactée également. C'est vous dire à quel point c'est génial. Petit rappel pour les petits nouveaux, bien évidemment, je pense à vous. La cellule de survie, ce qu'on appelle cellule de survie, ce qui correspond au châssis, grosso modo, c'est toute place dans laquelle le pilote est assis, donc à savoir ses petites miches, ses petits bras, son halo, l'arceau de sécurité au-dessus de la tête et qui va jusqu'au pied et qui se referme derrière pour être sûr que, ben, en cas d'impact, le pilote soit protégé. Peu importe à quel point la voiture se désintègre, cette cellule doit correspondre à des normes de sécurité qui sont extrêmement exigeantes et qui, visiblement, ben là, a bien fait son boulot, puisqu'elle a parfaitement protégé Carlos Sainz de l'impact, et également Esteban Ocon, qui était juste derrière, qui a également été impacté pour tout ça. Donc, logiquement, eh ben, Frédéric, je viens de voir ton message dans le chat. En toute logique, Sainz a été pénalisé parce que oui, il fallait le pénaliser pour ça. Bien évidemment, je simplifie parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Bon, alors, les conséquences premières de tout ça, c'est que bah, Sainz et Ocon ont tous deux des machines endommagées. Pour Carlos Sainz, il va falloir procéder à un remplacement de l'unité de puissance, moteur, pour faire simple. Alors que, à première vue, bah, là, on est totalement sur une responsabilité qui est ni celle de Ferrari, ni celle des autres pilotes, mais qui dépend intégralement des conditions de sécurité qui, là, pour le coup, retombent sous la juridiction de la FIA et des organisateurs. Et du coup, en devant changer cette unité de puissance, déjà, il n'y a eu aucun mot concernant ce qui va concerner la responsabilité budgétaire. Frédéric Vasseur, de son côté, de ce que j'ai compris, il a dit qu'il était, qu'il s'inquiétait pas des pépettes. En même temps, j'ai envie de dire c'est Ferrari, mais il n'y a pas d'inquiétude. On est en fin de saison, ils ont les pièces pour remplacer, donc il n'y aura pas d'inquiétude vis-à-vis de leur budget qui est capé, hein, comme tout le monde, je le rappelle. Donc pour cela, il n'y a aucune inquiétude à avoir du côté de chez Ferrari, mais physiquement, ils vont devoir procéder à un changement d'unité de puissance, slash moteur, et donc ça veut dire pénalité sur la grille pour Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz, c'est pour ça qu'il sera pénalisé ce week-end, parce qu'il va devoir remplacer des pièces. J'ai pas fait gaffe, mais il a roulé en plus, je crois, en essai libre. Là, je l'ai, j'étais en train de rattraper très rapidement, mais je crois qu'il a roulé, donc c'est déjà une bonne chose. Puisque ça a permis à tout le monde de rattraper, ben oui, tout le monde a bien roulé, Sainz a roulé, il finit même deuxième de la séance, mais oui, c'était un doublé Ferrari. Esteban Ocon, pas de problème de son côté également, donc tout va bien pour cet aspect-là, si ce n'est que Sainz aura une pénalité. La pénalité est aberrante, je vois Origa dans le chat, j'ai du mal à ne pas être d'accord. Et c'est une situation délicate à gérer pour la FIA, mais on a déjà eu des cas comme ça où il y a des dégâts qui sont causés aux écuries, aux pilotes, et qui sont uniquement de la responsabilité des organisateurs. On se rappelle de George Russell à Bakou, je crois que c'était 2019, exactement le même cas. Il a roulé sur une plaque qui avait été mal... j'arrive pas à retrouver les mots, mais qui avait été mal colmaté, on va dire, sur la piste. On a eu le cas en Malaisie en 2017, de mémoire, c'était Romain Grosjean, où pareil, là, c'était une grille d'évacuation. Donc, là, on n'est pas sur un tracé urbain, mais voilà, tous les tracés, ils ont leur petite grille d'évacuation sur les côtés, et on a... une Williams de mémoire qui a roulé dessus, parce que ils roulent tous dessus, hein, c'est fait pour. Et vu qu'elle était mal attachée, ça l'a soulevé. Et quand Grosjean est passé, ça a totalement détruit sa bagnole et il s'est crashé assez violemment. Et je crois que les organisateurs avaient pris en partie, mais je peux me tromper parce que c'était il y a un moment de mémoire. Mais il me semble que les organisateurs avaient pris en partie les frais. Des dégâts. Donc, effectivement, c'est quelque chose que la FIA doit passer en revue dans son règlement. C'est un cas exceptionnel, hein, en soi, d'avoir des dégâts qui sont causés par le circuit, autrement que par le pilote rentrant dans le mur, c'est le circuit qui a cassé la voiture. C'est peut-être à prévoir pour l'avenir. Merci Sylvain, j'y pense, qui a renouvelé son abonnement pour 27e mois consécutif. C'est incroyable, merci beaucoup. C'est beaucoup plus de live stream que je fais, je crois, 27 mois. Peut-être, je ne sais pas. On en est là pour les deux pilotes qui ont été victimes d'un accident. On a donc eu une session de rattrapage de réparation. Les essais libres 2 ont été décalés de 2h30 au total, si je ne dis pas de bêtises. Et 2h30 pendant lesquelles ben, les fans ont poireauté. Mais c'est logique, hein, comme le disait Christian Horner, c'est dur pour les fans, mais la sécurité des pilotes passe avant le spectacle. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite, on a eu donc le cas de... Je m'y perds, pardon. La durée de l'événement qui était assez problématique. Rappelons que nous sommes sur un tracé urbain. Qui plus est, ils ont décidé de faire ça en plein cœur de Las Vegas sur une route qui est très, très empruntée. Et naturellement, personne n'est content. Et du coup, puisque nous sommes en pleine nuit et que la session a repris, je crois, à 2h du matin, heure locale, qui est excessivement tard, je pense qu'on est d'accord, les organisateurs du Grand Prix de Las Vegas ont déclaré qu'ils renvoyaient les fans chez eux. Ils ont dégagé les fans des tribunes. Ah, celle-là, c'est du jamais vu en Formule 1. Jamais je n'ai vu ça. C'est exceptionnel. C'est... Quand je vous dis que c'est... qui surprennent tout le monde dans leur stratégie du plus grand spectacle de l'histoire de la F1. Mais là, c'est des rebondissements sur rebondissements, comme dirait Gaëtan. 2h30 du matin, merci. Ils ont dégagé les fans des tribunes parce qu'ils ont dit il commence à se faire tard pour tout le personnel. Hein. On pense personnel, agents de sécurité qui sont présents dans les tribunes. On pense à tout le personnel qui est chargé lorsque tout le monde part de dire « Allez, hop, on avance doucement, on s'entasse pas, je te surveille, machin. » Voilà. Toutes ces personnes-là qui gèrent l'ouverture et la fermeture des tribunes, tout ça, eux aussi, ils sont en heure sup. Du coup, et qu'en plus de ça, je rappelle, il va y avoir la route qui sera fermée derrière. Donc, pour fermer la route, faudra attendre que tout le monde ait évacué, que tout le monde soit parti pour pouvoir réouvrir la route aux automobilistes, aux citadins. Donc, pour accélérer tout ce processus, ils ont dégagé les fans et ils ont dit « Rentrez chez vous, revenez demain ». Là, j'avoue, ma sardine, je suis d'accord avec toi, le manche à boule, pour que je te mette un petit... puisque c'est quand même incroyable. Et du jamais vu en Formule 1, merci la F1, merci la vie, merci tout ça. Comment je fais? Sinon, je le ferai plus tard. Ok, signaler, offrir un abonnement, je vais jeter... Ouais, non, bon, bref. Et au moins, je te verrai comme ça, en modérateur. C'est incroyable. Zazu, on rappelle que ce Grand Prix est censé être une opération séduction du public américain et que les gars de Liberty sont américains. Ouais, alors ça, c'est un autre sujet. Je vais essayer d'y toucher deux, trois mots si j'ai un peu de temps. Comme je le disais, je suis un peu pressé. Là, c'est la pause de midi. Bonjour. Attiles, 97, première fois dans le chat. Vasseur a dit qu'il avait déjà cette pièce, c'est ce que je disais. Donc oui, ça me rassure, j'ai pas lu des bêtises. Et c'est absolument formidable pour Ferrari, parce que ça aurait été très embêtant, mais c'est quand même exceptionnel qu'on en soit dans cette situation, à ne serait-ce que se poser la question. Je rappelle... Je les retrouverai pas, j'aurai pas le temps de faire les recherches, mais on est clairement sur du 4 chiffres. La journée pour tes tickets de spectateur, tu claques un ticket à 4 chiffres pour venir voir de la F1. Bon, je pense que quand le public que tu vas trouver à Vegas a les moyens, tu vois, mais ça reste quand même beaucoup de thunes. Et ils te dégagent les fans. Donc, nos amis qui étaient présents en Belgique en 2021 en soient témoins. Espérons qu'il y aura au moins une tombola pour deux, trois personnes. C'est ce qu'ils avaient fait au Grand Prix de Belgique. Ils ont organisé une tombola puisqu'ils ne pouvaient pas rembourser tous les fans. Du coup, ils ont dit, il y en a deux, trois qui vont gagner un abonnement TV, il y en a d'autres qui vont gagner un t-shirt, et les autres, ils auront peut-être des tickets l'année prochaine, et les autres, eh ben, vous prenez vos doigts et vous les enfoncez dans le rectum. C'est à peu près ce qui s'est passé, et franchement, j'espère qu'on aura une seconde édition de ça, parce que la F1 Tombola, j'admets que ça aussi, c'est un arc narratif que je ne pensais pas revoir. Et oui, la Tombola, ne l'oubliez pas. 1 500 $ minimum, tu dis, Axel, donc il me semble, là, c'est dans ces eaux-là, moi, j'allais dire... plus de 1000, mais voilà, plus c'est haut, plus c'est aberrant. Divinus, c'est la maison qui gagne, mais bien sûr, on est à Vegas, c'est la maison qui gagne. Oh bon sang, c'est incroyablement génial. On a donc pu avoir la session des Essais Libres 2 qui a repris normalement. Et qui s'est terminée. 30 minutes de session ont été ajoutées. A déjà été fait par le passé lorsque on perdait une séance d'essai libre pour des raisons un petit peu, je vais pas dire nécessairement similaires, mais quand il y avait beaucoup de pluie, quelque chose comme ça, ils essaient de réarranger le planning pour quand même que les équipes puissent se préparer. En plus, on est sur un nouveau circuit, donc là-dessus, très bien qu'ils aient rajouté une demi-heure. Maintenant, je vais faire un petit tour quand même sur les résultats, l'aspect sportif. Est-ce que je vais pouvoir le partager? Oui, c'est terminé, je vais le partager vite fait en espérant que ça passe. Là, j'avais ma page F1 TV à côté, juste pour montrer les résultats. Charles Leclerc, meilleur temps, 1/2 seconde devant Carlos Sainz. De ce que j'ai vu, il a fait un très bon dernier tour. Alonso, idem, sur la demi-seconde. Et ensuite, on retrouve Perez, Bottas, Verstappen à plus de 8 dixièmes déjà. Encore une fois, là, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder en détail, donc je sais pas ce qu'il faut interpréter de ces résultats. On dira que c'est que des essais libres, mais quand même, les équipes cherchent de la performance. On voit des Alpha Tauri et des Alpine en difficulté pour le moment. Esteban Ocon aussi, je suis navré, hein. J'ai pas eu le temps vraiment de me renseigner encore sur comment était la situation du côté de l'Alpine d'Ocon. J'ai cru comprendre qu'il y avait des dégâts sévères, mais visiblement ils ont pu repartir. Et ensuite, on a toujours ce peloton globalement regroupé, plus d'informations demain en Essai Libre 3. Que pense je, Mr. Vance, de voir les Ferrari devant avec autant d'avance? C'est pas tant une surprise puisque on est sur une piste avec de très très longues lignes droites et on sait que la Ferrari a, en plus d'avoir un bon moteur, une bonne puissance, a aussi très peu de traînée aérodynamique qui justement a tendance à détruire ses pneumatiques mais qui la favorise énormément et c'est pour ça que très clairement Ferrari s'affichait un peu en favori pour ce Grand Prix pour challenger Verstappen. Je voulais dire challenger les Red Bull. Et même avant le week-end, les deux pilotes étaient très confiants en disant qu'on est dans un cas qui pourrait être similaire à Monza ou Singapour. Donc clairement, il y a du podium, peut-être de la pole à jouer. Voilà à peu près ce que j'en pense. Serein d'art. Bon, j'ai pas capté, pardon. C'est jackpot. Donc, pour à peu près tirer des... J'espère que j'ai rien oublié hein, de tout ça, parce que quand même, ça fait beaucoup de choses. Vous me direz dans le chat, je vais juste passer vite fait en revue toutes mes petites notes et tout ce que j'avais noté à côté pour être sûr avant de conclure. Ça, totalement ça. Alors, nous sommes sur un article de Christian Nimmervoll de motorsporttotal.com. Je vais être honnête, je ne connais pas particulièrement ce média, mais ça a été rapporté par quelques comptes que je considère assez sérieux. Et... Je vais vous traduire à la volée hein, tout ce qui a été dit, tout ce qu'il a dit dans sa colonne sur motorsport-total.com. Ça a commencé avec l'inspection de la piste qui a eu lieu donc mercredi, jeudi, un peu en avance. Nils Wittich, directeur de course de la FIA, il fait sa petite inspection. Normalement, il aura dû donner son feu vert le mardi, mais lorsqu'il a parcouru la piste avec son équipe, à de nombreux endroits, ils ont déterminé que c'était pas aux normes, que c'était pas dans, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ils ont donc décalé la validation au lendemain, donc pour qu'il y ait les réarrangements. Et ensuite, on peut penser à d'autres cas de Grand Prix qui ont été un petit peu validés à la dernière minute. On a eu Jeddah en 2021, je vous rappelle, à une semaine, il était à peine en train de finir de poser les dernières briques du circuit. Là, c'est un peu différent puisque il n'y a pas eu besoin de fabriquer le sol, même si l'asphalte a été resurfacé. Enfin, il y a eu toutes les procédures normales en préparation d'un Grand Prix de Formule 1 pour un Grand Prix urbain. Mais c'est quand même exceptionnel que, à quelques jours du début, il y ait eu des premières inquiétudes et surtout ça a été fait un peu si tardivement au final. Normalement, même sur les tracés urbains, il faudrait que je demande à quelques copains qui sont à Monaco, mais je sais qu'ils s'y prennent des semaines et des semaines en avance pour regarder pour l'inspection, pour l'installation, tout ça, quoi. Donc je pense qu'il y a une bonne part de responsabilité derrière de la FIA. J'ai tendance, et c'est peut-être pour aller au contraire de ce que certains, de ce qu'on peut entendre et lire, parce que j'aime me faire l'avocat du diable. Je pense que c'est pas totalement tant une part d'incompétence de la FIA, parce que Nils Wittich, quand même, il connaît son taf, le mec. Ça fait des années qu'il est directeur de course pour la FIA. Il sait faire son taf. Le truc, c'est que la Formule 1, derrière, il y a énormément de pression. Et je pense que la FIA a des pressions vis-à-vis des organisateurs, bien évidemment, puisqu'ils déboursent des blindes, et aussi de la Formule 1, parce que ils veulent que leur voiture roule et qu'il faut leur accord. Ah, super, merci Axadona, tu confirmes, t'es commissaire à Monaco, tout est anticipé. C'est bien ce que j'avais vu, cru comprendre. Il y a toujours des conflits d'intérêts, pour répondre au chat, et j'en ai déjà parlé dans une émission, je ne saurais plus vraiment retrouver laquelle, mais j'en ai parlé dans une vidéo où je disais que pour moi, la FIA est totalement les larbins et un peu le bouc émissaire de la Formule 1. De toute façon, c'est une thématique que je rappelle de manière récurrente et qui, pour moi, est une évidence. Et pour le moment, j'ai pas eu de preuves du contraire. Bonjour, monsieur Emmanuel Touzeau. Se défouler, moi? Mais non, je ne me défoule pas. Est-ce que vous trouvez que je me défoule depuis tout à l'heure? Ouais, je me défoule un peu, je suis désolé. Donc, je vais pas tarder à conclure, mais pour moi, le problème initial, au-delà de dire « Ah là là, c'est live un spectacle, tout ça, faut rouler à Vegas, c'est pas bien, tout ça », fondamentalement, je ne suis pas contre l'idée d'avoir de la Formule 1 à Las Vegas. Ça fait un peu « gimmick », entre guillemets, mais pourquoi pas? C'est vrai que si tu penses à la Formule 1 et que tu veux la propager dans le monde, aux États-Unis, tu te dis que Las Vegas est une destination à peu près évidente en soi. Maintenant, le gros problème, et pour moi, là j'englobe toute la période Liberty Media qui déboule depuis 2015-2016, arrêtez de faire des Grands Prix en ville, c'est tout. Les Grands Prix en ville, c'est toujours un bordel. On l'a vu à Las Vegas, tiens, en 1980-82. C'est marrant, c'est un bordel aussi. Mais on l'a vu de multiples reprises sous l'ère de la F1 pré-Liberty Media, les tracés urbains, il n'y en avait pas tant que ça. On les comptait un peu sur les doigts des pouces. Et quand tu regardes, là, il y en a une flopée, mais on a eu l'Azerbaïdjan. Alors ça, c'est des accords qui remontent de ce que je comprends à quand même plusieurs années sous l'ère Ecclestone. Donc ça retombe un peu sous sa responsabilité. Mais ensuite, là, on prend ces dernières années, Miami, Jeddah, Vegas, et je suis sûr que j'en oublie tellement que j'efface mon cerveau de la F1 en ce moment. Mais rien que ces trois-là, ils sont énormément problématiques en soi pour plein de raisons. C'est des circuits urbains, donc avec toutes les difficultés que ça implique en termes d'organisation, et en plus de ça, des circuits urbains à haute vitesse. Et le pire, c'est que ces branquignoles, excusez-moi, ils s'en vantent. Un tracé urbain à haute vitesse, ce n'est jamais bon. Et par exemple, au contraire, on a un exemple contraire, Singapour, il y a des sections à haute vitesse. Singapour, je pense que c'est un excellent exemple de tracé urbain qui va vite, mais où il n'y a pas de problème de sécurité. L'Azerbaïdjan, moi je l'aime bien. Premier à dire que j'admets bien l'aimer, mais je rejoins cet avis. La sécurité de Bakou est une catastrophe. Et j'en ai parlé dans les FMG Night Fever, je vous promets, à l'intersaison, on en a parlé un peu sur le Twitter avec Emmanuel Touzeau, Axel, anciennement au Guidon, et le reste de l'équipe, Tony, notre ami directeur de course. On va organiser une spéciale grade 1 où on va passer en revue tout le calendrier de Formule 1 et voir quel circuit ne devrait pas avoir légitimement leur place au calendrier pour des raisons de sécurité. Donc, voilà. En soi, on regarde les dégagements, tout ça, de Vegas. Je pense qu'ils sont bons. Le truc, c'est que il n'empêche qu'on atteint, d'après ce qu'on disait Ocon au début du week-end, il pense à des pointes à 350 km/h. 350 km/h, ce sera en ligne droite. En ligne droite, tout peut arriver. Si à 330 km/h, tu repenses à Verstappen à Bakou, son pneu qui explose, voilà les dégagements sur les côtés. Et ça, c'est un truc à peu près similaire, pour être honnête, sur les tracés normaux. Et ensuite, le virage 17 est meurtrier. Il faudrait que je le repasse en revue, Manu. J'ai pas encore mis le temps, moi, de regarder la F1 ce matin, comme je le disais. Mais il y a toutes ces contraintes donc vis-à-vis des tracés urbains, c'est relativement dangereux en général, et c'est pour ça que Monaco, il n'y a pas de problème vis-à-vis de la sécurité. Alors, on va dire que dans les années 60, il y en avait 2-3, mais les gars, ils tombaient dans la flotte, si tu veux. Ils tombaient dans la flotte, et la chicane du port était vraiment dangereuse, mais c'était il y a 70 ans. Aujourd'hui, Monaco, il est considéré comme le circuit le plus sécuritaire du calendrier de Formule 1, et c'est un tracé urbain. Parce que tu sais que quand les pilotes se crashent, bah, ce sera des vitesses qui sont parfaitement adaptées aux normes de sécurité des rails, des tech pro et des châssis. Oui, RG09, 350 km/h sur la plaque d'égout, ça peut très mal finir. Et de toute façon, il était à haute vitesse, hein, Sainz. Si vous n'avez pas vu les images, c'est hyper impressionnant. En plus, il roule la nuit. Décalage horaire, tout ça. La formation des commissaires, je ne sais pas du tout ce que ça a donné à Vegas, pour être honnête. Mais puisque tu dois me parler de Monaco, il n'y a aucun problème. Les commissaires, c'est le top du panier. Et là où je voulais en venir, donc un Grand Prix à Vegas, oui, faites, éclatez-vous les copains, mais pas en ville, de un, et de deux, au lieu d'oublier des détails comme il fait super froid en novembre au Nevada la nuit, essayez de vous rappeler de détails comme le Nevada, c'est un putain de désert. Vous pouvez faire votre circuit à côté des casinos. C'est un désert. Il n'y a rien. Vous pouvez faire le Grand Prix là, quoi. Vous pouvez faire le meilleur tracé du monde. Vous pouvez faire le tracé le plus impressionnant du monde. Et en arrière-plan, sur les plans larges d'hélicoptères, eh ben, tu verras tes casinos, tu verras ta bulle géante et tout le monde sera content. Parce que soyons honnêtes, là je parlais un peu réalisation de Grand Prix. La Formule 1, quand ils sont en piste, qu'on regarde les batailles en piste, on s'en fout, on voit pas, on voit des lumières partout, et c'est ce qu'il y a de pire, je trouve, pour les Grands Prix urbains. T'as des lumières partout, tu sais pas où regarder, et sur les gros plans, en fait, tu distingues de pas où c'est. La seule raison qu'ils ont pour vendre la ville, c'est les plans d'hélico, les plans drones et les plans larges, les plans où tu vois pas ce qui se passe en piste, et on va voir que de ça. J'en suis persuadé, je serais pas étonné qu'il y ait eu que de ça en essai libre, parce qu'il faut qu'ils montrent la ville. Ben, quitte à la montrer, faites-le, avec un Grand Prix au premier plan. C'est magnifique. On a quelques tracés comme ça et c'est très, très bien. C'est très, très bien de voir ce genre de choses. Et on a donc cette opportunité gâchée pour moi. Ce serait génial. Pourquoi pas? Oui, un Grand Prix à Vegas. Ils font leur tracé un vrai circuit. Ils peuvent le faire comme ils veulent. Ils ont plus besoin de coller des contraintes ridicules à leurs designers, j'oublie le thème, à leurs architectes, pardon. Et plutôt que d'avoir un, comment qui s'appelle la Hermann Tilke, qui s'adapte à des conditions ridicules, eh ben, il peut nous répondre des tracés comme Istanbul, comme la Malaisie ou comme Austin. C'est des tracés, je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est des tracés qui plaisent aux pilotes, c'est des tracés qui plaisent majoritairement, et voilà, ramener ce genre de truc. Et en arrière-plan, bah oui, t'auras ton petit panneau casino Vegas, tout ça qui brille, et ce sera joli, il y aura des jolies photos, et tout le monde sera content. Là, Verstappen, et on va peut-être s'arrêter là, parce que je vois l'heure, Maximus Verstappenissus a fait deux choses géniales ce week-end. La première, c'est qu'il a rappelé à peu près tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes qui peuvent pas se l'encadrer, que c'est pas parce que t'aimes pas un pilote que t'es obligé d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit, que ça te rappelle que la pluralité d'opinion ne doit pas dépendre de si oui ou non tu vénères un pilote ou tu vénères quelqu'un. Verstappen, là, depuis quelques semaines, il enchaîne les masterclass de bon sens. C'est exceptionnel. Et il nous a sorti, bon, en parlant du pré-show, on en parlera peut-être à l'occasion, je ne vais pas le faire maintenant, que j'ai trouvé extrêmement difficile à supporter. J'ai l'impression d'être un clown. Très drôle, bien joué, parce que c'est un peu le cas. Enfin, tous les pilotes, hein, bien évidemment. Et en parlant du tracé, c'est 99% de spectacle et 1% de sport. Et c'est ça. C'est ça. C'est que de la ligne droite. 1,9 km de ligne droite. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Dans le meilleur des cas, on aura des dépassements dans des lignes droites, au DRS et à l'aspiration. Et moi, Seigneur Dieu de Las Vegas et du spectacle et du divertissement, faites que les Formule 1 dégagent si peu de traînée aérodynamique et que les ailerons soient tellement hauts que le DRS ne serve à rien et qu'au final, bah, il n'y ait pas tant de dépassements que ça en ligne droite. C'est la seule chose que je demande. Parce que franchement, quitte à avoir un truc de la loose, autant l'avoir jusqu'au bout. Et en plus, la qualification va être assez lunaire parce que tout le monde va vouloir se donner l'aspiration. Oui, Lance Stroll a aussi critiqué le show d'introduction. J'en ai pas parlé parce que Verstappen, c'est comment dire, il est le porte-parole de la F1 désormais. Il est champion du monde, triple champion du monde en titre, et je trouve ça formidable que quand on lui file un micro, il dit ce qu'il a à dire avec le plus de bon sens possible et derrière qu'il n'en ait rien à carrer de la bienséance médiatique. Et je trouve génial aussi, et là c'est vraiment formidable, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, lui, il adore. Après, c'est les goûts et les couleurs. Il adore les shows Las Vegas, plein de lumière, bling bling, tous ces trucs. On sait, il est comme ça depuis toujours. Verstappen, lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus austère, dans le sens où il prête pas attention à ça. Il est plus axé pratique, confort qu'autre chose. Et je trouve ça génial d'avoir les deux plus grands pilotes de leur temps, champions du monde coup sur coup, l'un après l'autre, dominant l'un après l'autre, où t'en as un qui dit « Ah, c'est génial d'aller à Vegas, c'est un super show, ça colle à la Formule 1, c'est magnifique. » Et Verstappen qui balance, vous me cassez les burnes avec vos paillettes, je suis pas un chat, j'ai pas besoin de trucs qui brillent, je veux faire de la course. Voilà. Je vais m'en arrêter à peu près là. Oui, Lance Stroll, il a pas sa langue dans sa poche, et ça, c'est un truc que j'aime bien chez lui, justement. Et il est très justement anti-médiatique, ce troll. C'est pas quelqu'un qui aime se plier aux convenances médiatiques. C'est ce qui a tendance à énerver littéralement tout le monde. Mais quand c'est dans des cadres un peu moins sportifs ou un peu plus détachés, c'est beaucoup plus plaisant. Bon, je vais m'en arrêter là. Merci à tous de m'avoir suivi. Ça a été très bref, hein, comme je le disais. C'était juste le temps de décompresser un peu pendant la pause. On se retrouvera pour le live de ce week-end qui sera dimanche à 10h, pas samedi soir. Ce sera un petit déjeuner spécial. On va regarder la course chacun de notre côté. Dimanche à 7h, heure française, hein, bien évidemment. On se retrouve ensuite en live à 10h avec nos petites biscottes et nos costards, puisque c'est Vegas. Et puis voilà. Merci encore une fois. Des gros bisous. Bon appétit. Bonne fin de journée. Bon week-end. Et bon divertissement. Bye bye.